aussi.
C'est bon.
Bonjour à vous tous, ceux qui sont tout près, ceux qui sont plus loin derrière un écran, ou même ceux qui ne sont peut-être pas là, qui ont profité de ces 2 semaines de vacances. Il paraît que c'est nouveau à Genève, 2 semaines à Pâques. Bonjour aux visiteurs, hein, il y a plusieurs visiteurs parmi nous aujourd'hui, ça fait plaisir. Nous voici rassemblés pour prier ensemble, pour exprimer notre louange, pour écouter ce que Dieu veut nous dire à chacun de nous. Ce Dieu qui nous rejoint aussi bien dans les joies que dans les peines, dans la santé et dans la maladie, dans les eaux calmes comme dans la tempête. Prions. Seigneur, nous accueillons ta présence ce matin, ta présence dans ce lieu, ta présence dans nos parcours de vie. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire, que ce soit par le chant, par la prédication, par le partage, et garde-nous dans ta présence. Amen. Dans la Bible, vous ne trouverez pas une définition de Dieu. Mais des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, des personnes qu'ils rencontrent de manière diverse et surprenante, ou peut-être, je devrais dire, qui sont rencontrées par Dieu, un Dieu qui parfois se cache, parfois se révèle, un Dieu dont les Juifs ne prononcent pas le nom, un Dieu dont on ne doit pas se faire d'image, mais en même temps un Dieu qui est présent. Il est présent dans l'histoire d'un peuple, il est présent dans l'histoire de nombreuses personnes. Alors, est-ce que c'est le Dieu qui est, dont la présence se manifeste dans un phénomène effrayant, d'une éruption volcanique, comme dans l'histoire de Moïse qui monte sur la montagne pour recevoir la loi, les tables de la loi qui deviendront les 10 commandements? Ou bien est-ce que c'est plutôt celui qui se rend présent dans le souffle léger d'un murmure, un peu plus tard, avec l'histoire du prophète Élie qui, en pleine dépression, retourne sur cette même montagne pour chercher la présence de Dieu. Aujourd'hui, dans notre époque qui est très matérialiste, quand même beaucoup de gens se posent des questions sur le sens de la vie, sur la spiritualité. Et beaucoup de scientifiques, spécialement ceux qui travaillent dans la physique fondamentale, par exemple au CERN ou dans l'astrophysique, sont amenés par leurs recherches à se poser la question de Dieu, des origines. Des questions à laquelle la science ne répond pas. Et souvent, ils ont cette intuition d'une intelligence à l'origine de toute chose. Mais c'est la Bible qui nous invite à rencontrer ce Dieu personnellement, ce Dieu qui est à la fois le créateur de toute chose, mais qui nous rejoint dans ce qui est le plus profond au fond de nous. Un Dieu qui est à la fois infiniment grand et tout proche. Alors ce matin, nous aurons après deux chants, nous aurons une présentation des Gédéons. C'est Nicolas Béroux qui nous présentera cette association. Célina nous emmènera à la découverte de l'image de Dieu. Et à ce que cela peut nous dire sur notre propre regard, sur nous-mêmes, sur les autres. On aura un temps ouvert de partage, si vous avez quelque chose à partager après ce temps-là, et on prendra la Sainte Cène. Alors nous voulons maintenant entrer dans un temps de louange avec deux chants. Pas dans un temps de louange pour oublier nos soucis et se transporter ailleurs, mais je crois qu'on peut se placer devant Dieu, devant l'immensité de son amour, tel que nous sommes.
Je vous invite à vous lever.
La terre se réjouit, il est paré d'éclat, la nuit essaye de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. D'âge en âge, il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Thank you.
ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. Toi seul, tu façonnais la terre. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul et digne ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul es Dieu. Seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Alléluia.
Alléluia.
Joie et bonheur sont dans ta présence, venant de le chanter. Thierry Terrane propose, ce qui n'était pas prévu, de prendre en charge les enfants, comme il y a quand même quelques enfants parmi nous. Alors, vous voulez aller avec Thierry? Pardon? Ah, Nicolas aimerait bien que les enfants puissent entendre les histoires des Gédéons. Donc, on va attendre. On va donner la parole à Nicolas d'abord. Voilà. OK. Alors, les Gédéons, il y a un seul Gédéon dans la Bible, mais je crois qu'il y en a plusieurs parmi nous ce matin. Donc, voilà.
Bonjour à tous. Et bonjour aux enfants.
D'habitude, vous allez me voir en tant que moniteur. Hein. Mais vous savez, on dit aux gens qu'ils ont plusieurs casquettes. Donc, je fais plusieurs autres choses. Je distribue aussi des Bibles. Des petites Bibles comme ça dans les écoles, par exemple. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils font les enfants avec ces Bibles? Ils les lisent? Oui. Mais pas tous. Une fois, on a distribué une Bible comme ça, et puis le petit garçon l'a pris, il a arraché toutes les pages, et les a lancées en l'air. Comme ça. C'est pas bien, hein, de faire ça avec un livre. Hein. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire, je vais vous apprendre un petit peu d'histoire. Ça se passe il y a longtemps. 1898, ça vous dit peut-être quelque chose? C'est à 120 ans à peu près. Il y a un voyageur de commerce, vous savez, ces gens qui vont de maison en maison pour vendre des produits, qui a un hôtel. Un autre arrive en même temps. Mais il n'y a plus de chambre dans cet hôtel. Plus qu'une. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'hôtelier leur dit, écoutez, si vous voulez, vous allez deux dans la même chambre. Bon, pourquoi pas. Arrive le soir, ils vont se coucher, et l'un qui dit à l'autre, tu sais, vous savez, sur le lit de mort de ma maman, je lui ai promis de lire ma Bible tous les soirs et de prier tous les soirs. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais le faire. Ah, mais moi, je suis chrétien aussi, je le fais volontiers avec vous. Et les deux se mettent à genoux, prient, lisent la Bible et discutent. Et un qui dit, ça serait bien s'il y avait des Bibles dans les hôtels. Parce que comme ça, les gens qui vont à l'hôtel, ils pourraient lire la Bible, ils pourraient s'approcher de Jésus. Ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. On n'est que deux. Ben, on va envoyer des convocations pour essayer de trouver des gens qui veulent faire le même travail avec nous. Et ils envoient, je crois, 1000 convocations. Et ils font une assemblée. Mais est-ce qu'ils sont tous venus, les 1000? Ben non. Ils sont retrouvés à 3. Mais je pense qu'il devait avoir un peu de sang suisse dans les veines, parce qu'en fait, ils ont décidé de faire un président, un vice-président et un trésorier. Et voilà qu'ils se réunissent. Et qui continue, et qui persévère. Alors il y a eu des réunions et tout ça, vous fait grâce des 120 ans. Et on en est où aujourd'hui? Ben aujourd'hui, dans le monde entier, on est 250 000 Gédéons. On travaille dans 199 pays, presque tous les pays du monde, sauf ceux évidemment où les chrétiens sont malvenus. Et on distribue 126 000 exemplaires de Bible ou de Nouveau Testament par jour. En 109 langues différentes. Depuis la fondation, depuis cette année-là, 1899, on a distribué 2,5 milliards. C'est un tellement grand chiffre, vous ne pouvez pas vous imaginer, je crois. Mais vous pouvez savoir que, par exemple, la semaine dernière, on a distribué ici, à Genève, au cycle des Guyonnais, 202 exemplaires qui viennent se rajouter à ça. Mais on est qui, les Gédéons? Qui en est, tous ces gens? Vous avez une idée? Bon, d'habitude, les Gédéons, ils viennent avec un beau costume, avec une belle cravate et tout. Mais je me suis dit que si moi, je venais ici comme ça, vous allez penser que je suis devenu témoin de Jéhovah ou mormon. En fait, on est tous des chrétiens, des gens qui habitent, qui viennent d'églises, comme l'église de Mérin, des églises protestantes. Toutes les églises protestantes ou évangéliques ont des membres Gédéons. Et voilà, voilà, c'est tous des professionnels, c'est des gens qui ont une profession qui leur permet de se libérer, par exemple, au milieu de l'après-midi pour pouvoir aller rendre visite à un directeur d'hôtel, ou bien des gens comme ça. Et puis, c'est Dieu qui nous a appelés à faire ce travail précis. Mais quel est ce travail précis? Oh, il est très simple, en fait. On distribue des Bibles, on a des Bibles, dans 5 domaines, uniquement. On ne fait pas de concurrence comment est-ce qu'on peut dire, aux librairies bibliques ou comme ça. On les distribue d'abord, et c'est le premier qui a commencé, c'est dans les hôtels. Ceux d'entre vous qui voyagent ont certainement eu l'occasion une fois de tomber sur un Nouveau Testament dans une table de chevet d'un hôtel. C'est la première chose qu'on a fait. La deuxième chose, c'est les écoles. Et à Genève, c'est ce qui nous occupe le plus. Les cycles d'orientation, on s'y trouve à la sortie... En principe, toutes les 2 ans ou tous les 3 ans pour faire un cycle complet. Et c'est là qu'on a distribué tout récemment. Le troisième, je prends mes notes pour ne pas dire de bêtises. Ce sont les hôpitaux. Le quatrième, ce sont les prisons et les casernes. Actuellement, à Genève, il n'y a plus d'école de recrue. Et comme je vous le dirais, on a des difficultés. Par exemple, à l'hôpital cantonal, il ne s'est plus accepté pour mettre des nouveaux testaments, ce qu'on faisait il y a quelques années. Alors voilà. Pour faire ce travail, évidemment, une seule chose est indispensable, c'est la prière. Alors on se réunit toutes les semaines. Actuellement, c'est par Zoom. Depuis qu'il y a eu le Covid, c'est ces moyens qu'on utilise pour prier pour ce travail, pour prier sur les distributions et tout. Et une fois par mois, on se réunit ensemble pour prier, organiser notre travail et généralement prendre un repas ensemble. Et que deviennent ces Bibles, ces Nouveaux Testaments qu'on a mis un peu partout, qu'on a distribué à des élèves, qu'on a mis dans ces hôtels? En général, on n'en sait rien. Mais parfois Dieu nous le montre. Vous vous rappelez ce Nouveau Testament qui était déchiré en petits morceaux, là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il faut vous raconter depuis le début. C'est une école qui était à Quito. Quito, c'est en Équateur, c'est un pays assez lointain. Et cette école était posée sur une colline. Alors, il y a un peu de vent, et puis toutes ces feuilles se sont envolées, et sont arrivées sur des champs en bas. Et en bas, il y avait un fabricant de caramel. Oh, ce n'était pas un fabricant comme de chez Nestlé, avec une usine avec 1000 employés. C'était juste quelqu'un avec une table, un petit réchaud, des outils pour faire ses caramels. Et il voit tous ces petits papiers qui arrivent. Il faut savoir que dans ce pays, en Équateur, le papier coûte très cher. Il voit tout ça. C'est juste le bon format pour emballer mes caramels. Alors il va ramasser tous les petits papiers comme ça, il en fait une pile, il fait ses caramels et il les emballe. Et il attend. Arrive un client. Donnez-moi 2-3 caramels. Il les prend. Le client part, déballe le premier. Tiens, il y a les lectures aujourd'hui. Mais c'est intéressant ça. Mais ça se finit là, tant pis. Il sort un deuxième caramel, puis il veut la suite. Évidemment, ce n'était pas la suite, parce que comme tous les projets étaient mélangés, il y a peu de chances qu'il tombe sur la suite de son texte. Mais il est tellement intéressé par ce qu'il a lu dans cette page qu'il veut savoir la suite. Il retourne vers le marchand, je prends tous les caramels qui sont dans ses papiers. Il arrive chez lui, il déballe tous ses caramels. S'il y a des gamins, je pense qu'ils étaient ravis, alors, parce que là, il y avait une bonne raison. Mais il commence à regarder les numéros de page, il arrive à rassembler, il fait son petit puzzle. Il arrive à rassembler complètement son Nouveau Testament, il le lit, et il trouve qu'effectivement, c'est Jésus le Sauveur du monde, et que c'est ça qui l'intéresse, et que c'est ce qu'il cherchait. Mais comment aller plus loin? J'ai dit, mais dans le fond, dans ce que j'ai lu, il y a une phrase que j'ai déjà vue quelque part. Mais où? Il réfléchit. Ah, mais c'était marqué sur une maison. Sur une maison, il y avait la même phrase. Je vais aller voir si je retrouve cette maison. Et il retrouve la maison. Comme vous avez, je pense, déjà deviné, c'est dans une église. Et il rentre, il parle avec le pasteur, il explique ce qu'il a vécu. Et il est devenu membre de cette église. Et c'est comme ça qu'on a connu toute l'histoire. Voilà comment Dieu peut utiliser un Nouveau Testament qui a été déchiré aussi. Mais les voies de Dieu sont vraiment insondables. On a distribué une fois un prisonnier. Lui aussi était très très content. Parce qu'il n'y avait plus de papier à cigarette, puis c'était juste le bon format pour rouler ses cigares. Alors, il a fumé tout son Nouveau Testament. Plus tard, il y a un autre Gédéon qui lui en a donné un deuxième, qu'il a fumé comme le premier. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire que l'argent qu'on donne les Gédéons, il part en fumée. Hein. Mais on a donné un troisième avec une condition, c'est qu'il le lise avant de le fumer. Et là, il l'a lu, et là, il a trouvé son sauveur, il a changé complètement de vie. Et vous verrez dans les archives des Gédéons, on trouve une multitude d'histoires, cette fois toutes simples, des gens qui l'ont trouvé, qui l'ont lu, qui se sont convertis sans autre forme de procès. Et puis d'autres histoires rocambolesques où le Seigneur a vraiment dû chercher la personne. J'espère que ces petites histoires vous ont mis un peu l'eau à la bouche. Et vous vous demandez comment vous pouvez faire pour aider les Gédéons. La première chose, j'ai déjà parlé, c'est la prière. Sans la prière, on ne peut rien faire. Et à Genève, actuellement, on se rend compte des difficultés sous la loi de la soi-disant laïcité, où de plus en plus on nous met des bâtons dans les roues. À la sortie des écoles maintenant, souvent il y a de l'opposition et des gens qui disent qu'on agresse les enfants parce qu'on leur offre un Nouveau Testament. On ne peut plus aller à l'hôpital, les cabinets médicaux, la plupart refusent. Donc vraiment, pour faire sauter ces verrous, la prière est indispensable. Une deuxième chose, vous vous doutez bien qu'imprimer 1 million de Bibles par semaine, ça coûte de l'argent. Donc si vous voulez soutenir les Gédéons, vous êtes les bienvenus. On vous donnera à la sortie tous les moyens de le faire. Il y a plusieurs manières de le faire. Simplement un bulletin de versement avec des petits carrés comme ça, ça se fait maintenant. Ou bien, il y a des cartes aussi que vous pouvez prendre pour offrir en votre nom des Bibles à quelqu'un qui vient de réussir un examen, ou à quelqu'un qui est dans le deuil, ou n'importe quelle occasion que vous avez, vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi devenir membre sympathisant des Gédéons, donc membre de soutien de ceux qui veulent recevoir les nouvelles et tout. Je vous rassure tout de suite, on n'envoie pas une lettre de nouvelles par semaine. C'est 2-3 fois par année, vous n'allez pas être encombré de courriers inutiles, de spam. Et ça aussi. Puis enfin, peut-être que Dieu vous appelle, si vous faites partie de la catégorie socio-professionnelle voulue, à devenir Gédéon, parce qu'on en attend. Parce qu'à Genève, il n'y a plus que des vieux comme moi. Et puis, il faudrait vraiment qu'on rajeunisse ce groupe. Il y a presque 400 hôtels à Genève. On a un travail fou. On a besoin que Jésus envoie encore des ouvriers dans cette moisson. Je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée encore à vous. Et à bientôt. Ah, alors ils ont choisi ça, c'était les tout premiers, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont dit, voilà, notre association, c'est comme Gédéon. Gédéon, il était tout seul. Dieu lui a demandé de faire un grand travail contre une armée immense, avec très peu d'hommes. Et puis il a obéi, il n'était pas très courageux, il a fait, quand vous lirez dans la Bible, vous verrez qu'il a un petit peu, il a eu peur de ce qu'on lui demandait, mais il l'a fait. Et il a réussi, et il était serviteur de Dieu comme ça, et c'est pour ça que les Gédéons ont choisi ce nom-là.
Je vous propose qu'on prie pour les Gédéons comme ils nous y invitent. Seigneur, nous te remettons Nicolas et ses collègues et toute cette activité de distribution de Bible pour que cela puisse ouvrir des cœurs à ta parole. Te prions aussi pour que dans notre cité de Genève, où il y a facilement de l'opposition à ce genre de choses, tu ouvres aussi les cœurs des uns et des autres. Nous te les remettons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Voilà, merci Nicolas. Je vois que tu as aussi donné un peu de grain à moudre pour l'équipe de nettoyage la semaine prochaine. Comme ça, ils sauront qu'ils ne viennent pas pour des prunes. C'est bien, merci. Et si vous voulez savoir ce qu'est le vrai costume des Gédéons, Nicolas a amené un collègue que vous pourrez rencontrer après. Voilà, nous... Ça va encore un chant. Ah oui, les enfants. Maintenant, les enfants, vous pouvez rejoindre les lieux en dessous d'ici. Merci à Thierry pour cette initiative de prendre soin des enfants ce matin.
Parole du Seigneur Jésus. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais où je vous annoncerai clairement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez. Et parce que vous avez cru que je suis venu de Dieu.
Quand je sonde les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout le monde. majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter.
Bonjour, ça va? Vous avez passé un bon temps de Pâques? Oui, plutôt bien. Chouette. Ce matin, c'est le sens de la vue que nous allons utiliser pour observer un texte et observer Dieu du mieux que l'on peut. Du mieux que l'on peut, car c'est au travers du Christ que nous pouvons l'observer. Et si j'ai voulu aborder ce thème ce matin, c'est parce que j'y vois une grande réflexion sur notre rapport à l'image de Dieu dans un monde rempli d'images. En fait, on est bombardé d'images tout le temps et on ne sait plus si elles sont réelles ou si elles sont trafiquées. L'intelligence artificielle, par exemple, génère des images qui paraissent si réelles. Les filtres sur les réseaux sociaux camouflent tellement d'éléments qui viennent nous tromper. Les représentations que l'on se fait des autres et de nous-mêmes est alors biaisé. Notre cerveau doit constamment faire l'effort de trouver à ne pas se laisser tromper par ce qui est visible et puis de ne pas porter des jugements trompeurs sur des événements ou sur des personnes. Même si nous vivons dans une ère d'images à outrance, le problème de l'image et des influences trompeuses faisait aussi partie des difficultés du monde grec du temps de Paul. C'est pourquoi ce matin, je vous propose d'affûter notre sens de la vue au travers du chapitre 1 de la lettre aux Colossiens. Nous rendons grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la prière, que nous ne cessons de lui adresser pour vous. Nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, dans l'espérance de ce qui attend vous attend aux cieux. Cette espérance vous a été annoncée par la parole de vérité, l'Évangile, qui est parvenue jusqu'à vous, tout comme il porte du fruit et progresse dans le monde entier. De même, fait-il parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et connu dans sa vérité la grâce de Dieu, selon l'enseignement que vous a donné Épaphras, notre ami et compagnon de service qui nous supplée fidèlement comme ministre du Christ et nous a décrit de quel amour l'Esprit vous anime. L'apôtre Paul est sans doute en prison, sans doute à Rome, lorsqu'il écrit cette lettre. Il écrit cette lettre à cette église de Colosse dont il a entendu tant de bien. Une église où Dieu agit si fort que les gens font preuve de foi, d'amour et d'espérance. Ces vertus typiques des chrétiens. Cet amour, les Colossiens ont voulu le témoigner envers Paul, en lui faisant porter un don par l'intermédiaire d'Épaphras. Et c'est ainsi que Paul a connu cette église et a été très touché par elle. Mais Paul avait aussi envie de leur dire de veiller au grand bien qu'ils avaient en eux. Et c'est pour cela qu'il adresse cette lettre. Une lettre pleine d'amour, pleine de bons conseils et de bienveillance. Paul souhaite que les Colossiens puissent toujours s'affermir en Christ, en ne se laissant pas troubler par les cultes polythéistes et leur philosophie. Et d'autre part, en ne prêtant pas oreille aux influences du judaïsme conservateur qui ne pouvait pas accepter que des païens fassent partie du peuple de Dieu au même titre qu'eux. Paul connaissait les risques de se laisser malmener, déstabiliser par toutes les influences qui éloignent les églises de Jésus. Le risque de se laisser tromper par les influences du monde sont toujours aussi forts de nos jours. Dans notre ère, où l'on nous avertit très souvent sur les risques de fausses informations. C'est pourquoi j'ai voulu ce matin accompagner ce texte de Colossiens d'une œuvre de Magritte. Magritte était un peintre belge qui s'est longtemps inscrit dans le courant du surréalisme avant de s'en éloigner pour quelques divergences. Mais le surréalisme est une approche intéressante lorsqu'il s'agit d'interpréter le monde au-delà des apparences et du rationalisme étriqué. Ce courant est né durant la Première Guerre mondiale à partir d'un mouvement artistique qui s'appelait le dadaïsme. Le mouvement surréaliste rassemblait tout un collectif d'artistes littéraires, musicaux et aussi picturaux. La ligne de force de ce mouvement voulait voir des valeurs qui allaient au-delà des instances morales que tenaient les bourgeois du monde des années 1900 et qui avaient amené le monde à entrer dans une guerre terrible, violente et qui a plongé la quasi-totalité de la planète dans le chaos dont nous vivons encore des répercussions encore en 2023. C'est pourquoi il était vital pour ces artistes de mettre en évidence des valeurs qui allaient au-delà des images, du réel qui induit en erreur. Car le surréalisme se base principalement sur ce que l'inconscient peut produire dans le conscient. Ce que l'on voit peut cacher autre chose, alors prêtons-y attention. Ce qu'on voit en Christ dévoile le Dieu invisible, alors prêtons-y attention. Je continue la lecture. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez de manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, et que vous croissiez dans la connaissance de Dieu, et que vous deveniez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés des autorités des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Paul invite les Colossiens à faire preuve de discernement. Du discernement pour chercher à connaître les voies de Dieu pour eux, afin qu'ils puissent s'y attacher et laisser Dieu agir au travers d'eux. Mais aussi du discernement, car c'est vrai, ils ont été délivrés des ténèbres et de tous les péchés, c'est-à-dire de tout ce qui peut dévier vers le mal. Même s'ils ont été délivrés, les ténèbres, malheureusement, existent toujours. Et le risque de se laisser envahir par les ténèbres existe encore s'ils ne plongent pas leurs yeux dans la bonne image qui est celle du Christ. Car les ténèbres fabriquent plein d'images qui inquiètent, oppressent et font croire des choses fausses. C'est ce que Magritte cherchait à montrer dans ses œuvres autour de ce qu'il appelait la trahison des images. L'image d'un objet n'est pas l'objet lui-même. On aurait tort de commettre cette erreur d'affirmer la réalité d'un objet alors que ce n'est qu'une image. La pipe n'est pas une pipe, mais l'image d'une pipe. On ne la fumera pas. La pomme n'est pas une pomme, mais l'image d'une pomme, on ne la mangera pas. L'erreur ou le péché qu'on utilise dans le jargon des religions, ce n'est pas que chez les chrétiens, c'est faire de la confusion, de rendre réel ce qui ne l'est pas et d'ignorer ce qui existe réellement. Être dans la confusion induit des comportements de souffrance et de danger. Pensez à ces Hébreux qui avaient été libérés d'Égypte et qui, une fois dans le désert, se sont fabriqués un veau d'or pour l'adorer, comme si un tas de métal pouvait être Dieu en personne. Pensez aussi à l'apôtre Paul, bien avant qu'il écrive cette lettre aux Colossiens. Il avait refusé d'admettre que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et il s'était mis à persécuter les chrétiens. Dans les deux cas, il y a de la confusion. Et la confusion, je le crois, fait partie, malheureusement, de la vie de tous les humains. Avec ce qui vient d'être dit, que penser de cet homme avec cette pomme devant le visage que Magritte a peint? Il s'agit sans doute d'une de ses œuvres les plus connues. Est-ce que vous connaissez ce tableau? Vous l'avez déjà vu? J'aimerais vous demander à quelle place vous vous situez en regardant cette œuvre. Qui d'entre vous s'imagine être à la place de cet homme au chapeau dont le champ de vision est obstrué par la pomme? Est-ce que vous vous imaginez qu'est-ce que l'homme peut voir avec une pomme devant le visage? Certains. Au contraire, qui se met à la place du spectateur en imaginant à quoi ressemble cet homme derrière la pomme? Plus, ouais. En fait, les deux situations sont possibles. Avoir le champ de vision obstrué ou avoir de la curiosité. Et je pense que dans l'œuvre de Magritte, les deux points de vue sont possibles. Cependant, la curiosité dans ce tableau en particulier est ce qui est le plus mis en avant. Et c'est au travers du titre du tableau que je trouve cela frappant. Vous êtes prêts à savoir comment il s'appelle ce tableau? Le Fils de l'Homme. Fils de l'Homme, peint en 1964. Le Fils de l'Homme, ça doit forcément vous faire tilt. Qui est le Fils de l'Homme pour chacun de nous? C'est Jésus. Alors évidemment, l'homme sur le tableau de Magritte n'est pas le Christ. Mais le tableau invite, comme le texte aux Colossiens, à connaître une réalité cachée. Et avec cela, je lis la suite de notre chapitre. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout. Et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Je m'excuse, j'ai perdu ma place. Alors, je reprends. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en tout, en lui, toute la plénitude, et par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En Jésus, le visible et l'invisible de Dieu sont étroitement liés. Le Fils de l'homme est l'image visible du Dieu invisible. Paul décrit donc le Christ comme une image, l'image de Dieu. Mais Jésus n'est pas le premier personnage de la Bible à recevoir ce titre d'image de Dieu. Paul fait en fait un gros clin d'œil ici au récit de la Genèse et à Adam, le premier humain. La création a besoin de l'image de Dieu dans ce qu'il y a de vivant, l'humain de Dieu. Nous avons besoin de l'image de Dieu. Et je le répète parce que c'est vrai, nous avons besoin de l'image de Dieu. Et ce besoin-là n'est pas un péché. Par contre, ce qui est un péché, c'est de fabriquer une image de Dieu. Et il y a une vraie nuance ici à discerner. Car si on voit en Jésus l'image de Dieu, on devient adorateur de Dieu. Au contraire, si on voit en un objet Dieu, ou l'image de Dieu, on devient idolâtre, idolâtre du néant. L'idolâtrie réduit Dieu à l'état d'objet. Et il n'y a pas de plus grande confusion et alors de plus grand péché que celui-ci. Car si Dieu est réduit à l'état d'objet, alors tout ce qui est dans ce monde devient confus. Le réel, l'image, ce qui existe et ce qui n'est qu'illusion. C'est le chaos qui engendre les plus grandes crises existentielles et les plus grands drames dans ce monde. Nous venons de fêter le temps de Pâques, où Jésus a révélé Dieu, le Dieu vivant, éternel, tout-puissant, sans limite. Jésus, son Fils, son image, ne s'est pas laissé traiter comme un objet. Il dit en Jean 10, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » La vie de Jésus n'est pas un objet. Son image n'est pas un objet. Elle est ce qui révèle ce qui a été caché aux hommes qui ont voulu réduire Dieu à un objet. Une image de bois ou de pierre devant laquelle on se prosterne, ou alors réduire Dieu à un pouvoir qu'on pourrait tordre selon notre volonté. Ou un fruit appétissant qui pourrait nous donner la capacité de connaître comme Dieu. Réduire Dieu à un objet, une image inerte, c'est se rendre aveugle. Mais l'image vivante de Jésus nous permet enfin d'avoir accès au mystère du Dieu invisible. Par l'image du Christ, c'est Dieu qui se fait connaître. Pouvons-nous le reconnaître, le discerner? Il y a quelque chose de grandiose dans cet accès à Dieu. Notre curiosité de connaître un mystère, le plus grand mystère qui existe de tout temps. C'est aussi l'approche qu'avait le peintre Magritte au sujet de ce tableau. Voici ce qu'il dit lors d'une interview sur cette œuvre. Dans un tableau récent, j'ai montré une pomme devant le visage d'un personnage. Du moins, elle lui cache le visage en partie. Eh bien là, il y a donc le visage apparent la pomme qui cache le visage caché, le visage du personnage. Chaque chose que nous voyons en cache une autre. Nous désirons toujours voir ce qui est caché par ce que nous voyons. Il y a un intérêt pour ce qui est caché, que le visible ne nous montre pas. Cet intérêt peut prendre la forme d'un sentiment assez intense, une sorte de combat, dirais-je, entre le visible caché et le visible apparent. Susciter la curiosité et non l'aveuglement. La pensée surréaliste, c'est cela, voir au-delà de l'apparence. Dans le tableau de Magritte, la question tourne autour de cet homme dont le visible est l'invisible. Il y a donc un vrai combat entre ce qui est apparent et ce qui est caché. Et la même intrigue tourne autour de Jésus. Que peut-on vraiment connaître de Dieu dans le visible et l'invisible? Est-ce qu'un rabbi campagnard qui a vécu il y a 2000 ans au Moyen-Orient a de l'importance aux yeux du monde? Et si je rajoute que ce rabbi campagnard a attisé la colère des autorités politiques et religieuses de son époque au point d'avoir été arrêté, humilié, torturé et exécuté, est-ce que cela aurait encore de l'importance au final? Par contre, si je rajoute encore que ce même rabbi s'est relevé de la mort, invitant par là même tout humain de la planète à voir en lui l'image du Dieu vivant qui nous rend vivants, cela prend tout de suite une autre saveur. Car pour tout être humain, la vie est le bien le plus précieux. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas le pouvoir, et c'est encore moins les possessions. Parce que sans la vie, en fait, tout ça n'existe pas. Je poursuis la lecture. Quant à vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi fondée fermement et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue et qui a été proclamée à toute création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Voilà que toutes ces choses nous ont été révélées. Dieu nous est révélé et il n'y a qu'une image à laquelle nous référer pour connaître Dieu, et c'est Jésus. Nous sommes appelés à avoir du discernement sur les images et les représentations du monde extérieur, mais aussi et peut-être surtout du monde qui est en nous, à l'intérieur, que nous portons en fait quotidiennement. Ce sont nos lunettes. Nous sommes porteurs de cette révélation et donc au service du Dieu vivant, au service de la vie que Dieu nous offre. Paul s'est rendu serviteur de ce Dieu, du message du Fils de l'homme. Car même en prison, ce message continuait encore et encore à faire de lui un homme libre. Et ce message fait aussi de moi une femme libre, libre des représentations du monde qui m'enferment, libre des représentations que je me fais aussi de moi-même et de ma place dans ce monde. Ce message vous rend libre, vous aussi. Ouvrez les yeux pour voir en cette image du Fils de l'homme, celle de Jésus et pas celle de Magritte évidemment, que Jésus est l'image visible du Dieu invisible qui vous aime et vous aimera sans limite et condition éternellement. Et il n'y a rien de plus réel que cela. Amen.
On vous propose un temps de un temps de silence ou de partage ou de prière ou comme vous le sentez. Vous pouvez exprimer quelque chose ou partager un témoignage si quelqu'un a quelque chose à partager. Je n'ai pas pensé de demander s'il y avait un micro, parce que c'est peut-être mieux s'il y a un micro-baladeur, si quelqu'un a quelque chose à partager ou une prière à partager.
Quand on pouvait te voir physiquement. Et Seigneur, aujourd'hui, je peux te voir tout simplement en lisant les Écritures. Et tu n'es pas qu'une image seulement. Tu es une personne réelle à qui on peut parler et tu nous réponds. Et même quand tu es silencieux, tu nous parles. Au fond de notre cœur, nous savons que tu es là. Tu es là, tu règnes. Autant que nous te laissons régner. Tu es là et tu prends soin de nous. Tu as compassion de nous. Si aujourd'hui nous ne pouvons pas tout saisir, un jour, à ton retour, les choses seront plus claires. Alors nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci, Fils de Dieu. Merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils. Merci aussi, Père et Fils, d'avoir envoyé le Saint-Esprit, qui nous rend tout cela un peu plus réel. Alors, gardez-nous de compliquer les choses. Nous voulons encore, tout à nouveau, recevoir la plénitude de ton esprit et la grâce de continuer à croire aux saintes écritures que tu nous as laissées. Bénis cette communauté et bénis aussi la ville de Merin. Bénis les Gédéons dans leur travail à Genève. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur. Amen.
Une vision du Père qui est chaque fois différente. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu t'es révélé à nous. Oui, Seigneur, merci pour ta grandeur, Seigneur. Merci pour ton intérêt pour chacun de nous. Seigneur, merci pour ton évangile qui nous permet de voir avec des yeux qui sont les yeux du cœur, Seigneur, des réalités que nous, on a de la peine à exprimer. Mais merci aussi pour cette assurance de savoir que nous sommes sauvés et que nous irons vers toi, vers notre Père. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, j'aimerais te remercier parce que non seulement il y a ton image là, qui est décrit dans la Bible. Mais à un moment donné, tu as prêté ton corps pour monter sur une croix, nous donner une image d'une honte. Et cette honte, nous avons interprété que c'était toi qui portais des fautes. Et en réalité, c'était nous. Et beaucoup n'ont peut-être pas compris. Merci parce que tu nous as expliqué, tu es ressuscité. Et je te remercie vraiment pour ce que tu as fait, Seigneur, nous montrer qu'on avait besoin de ressusciter, on avait besoin de ton pardon. Amen.
Oui, merci Seigneur, parce que effectivement, nous voyons notre monde pris dans la confusion, comme on a dit aujourd'hui, entre le réel et l'irréel, dans ce virtuel, dans ces choses sur lesquelles il ne peut même plus s'appuyer vraiment. Et Seigneur, là, tu nous appelles à ne pas être des images, mais être simplement des témoins de toi, de ta résurrection, de cette bonne nouvelle que tu as pour chacun. Tu nous appelles à être sel et lumière dans ce monde. Alors Seigneur, que nous sachions répondre à ton appel. Amen.
Dans ce texte des Colossiens, il est dit, c'est par la mort de son Fils sur la croix que Dieu a établi la paix pour tous sur la terre et dans les cieux. J'invite Célina à venir avec moi. Nous allons partager ce temps de Sainte-Cène. Prendre la Sainte-Cène, c'est nous souvenir de ce moment où Jésus donne sa vie, qui est vraiment le point culminant de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est cette image qui nous est donnée de l'amour de Dieu, Jésus qui donne sa vie. C'est le lieu du pardon des péchés, c'est-à-dire le lieu de la réconciliation, le lieu de la où tout ce qui est cassé dans nos relations entre nous et dans nos relations avec Dieu, peut être réparé.
Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus jamais du vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. »
Seigneur, nous sommes ensemble ce matin pour partager ce dernier repas que tu as pris avec tes disciples juste avant d'être arrêté. Seigneur, que ta vie, que ton amour nous pénètre et fasse de nous tes témoins chaque jour. Amen. J'invite l'équipe musicale à nous rejoindre pour la distribution. Dans le vin, je rappelle qu'il y a des coupes avec du jus de raisin, c'est celles qui sont au centre et qui ont un petit godet coloré. Les autres sont du vin.
Père pour ce pain et ce vin. Merci aussi parce que derrière les images, derrière, il y a aussi des actes. Aussi, Seigneur, d'une vie nouvelle, d'une résurrection pour chacun d'entre nous. C'est le point de départ d'une réalité spirituelle, d'une réalité physique. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, et être sensibles à ta présence, à cette présence spirituelle, Seigneur, qui fait du bien dans nos vies. Alors, Seigneur, sois béni, Seigneur, pour ces faits, pour ta présence, pour avoir été, pour être mort et ressuscité. Seigneur, pour ces faits qui sont là avérés, Seigneur, et qui donnent la vie à chacun d'entre nous, au-delà des images et au-delà des perceptions. Amen.
Notre Dieu, notre Père, merci pour le don de Jésus, pour le don de sa vie. Seigneur, que cette vie de Jésus puisse vivre en nous pour que nous soyons, nous aussi, puissions répondre à notre vocation sur cette terre. Que tu viennes réparer nos brisures et nous donner ta vie. Dans le nom du Christ. Amen.
Nous avons parlé du Fils qui est l'image du Dieu que nul ne voit, le Fils qui reflète la gloire du Père. Et dans l'Épître aux Corinthiens, Paul écrit ceci: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Bon, je crois que contempler la gloire du Seigneur, c'est contempler Jésus-Christ ressuscité. Et cette contemplation nous transforme en son image, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et comme le Fils reflète la gloire du Père, nous sommes amenés par l'Esprit aussi à refléter la gloire du Fils autour de nous. C'est une sacrée perspective. Nous qui étions perdus à cause de nos fautes, on vient de le rappeler, nous sommes pardonnés, nous sommes graciés. Alors reflétons cette image autour de nous en contemplant le Fils.
Tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Notre Père, tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire, sous ta beauté nous puissons nos regards, sous ta beauté nous puissons nos tous qui reflèteront le Seigneur de gloire, un visage découvert
dans un miroir. Nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire.
Voilà quelques annonces. On a un repas communautaire tout à l'heure, qui est un repas, on partage ce que les gens ont amené, mais vous êtes tous les bienvenus, hein. Même si vous êtes visiteurs que vous ne saviez pas, vous pouvez rester avec nous. Très volontiers. Mardi prochain, donc le 18 à 20h15, rencontre de prière communautaire. Je pense que vous vous réunissez dans une salle en bas, ouais, dans la salle du groupe de jeunes. Voilà. C'est ouvert à tout le monde. Oui, oui, oui. C'est pas...
Un peu comme pour les GDM, on peut faire une convocation à 1000 puis se retrouver à 3. Donc, on peut annoncer...
Voilà. Et mercredi, de 18h à 19h30, espace louange à la chapelle. Parce que voilà, c'est sympa à la chapelle. Et puis le même mercredi, à partir de 19h30, c'est CTT qui continue, hein, avec les jeunes de... grosso modo de 15 à 25 ans. Voilà. Jeudi, on a la rencontre du conseil à 19h. Et vendredi 21, le concert Adonia, le concert Esdras. Voilà. Alors ça, c'est, on en a une l'année dernière. Hein. C'est des magnifiques comédies musicales qui sont réalisées par des jeunes, de, quoi, des, c'est des pré-ados, des ados. Des ados, hein, ouais. Donc c'est voilà. Tu avais quelque chose à rajouter ? Alors.
Alors donc venez tous vendredi à 20h donc au centre œcuménique. Si jamais nous avons besoin encore peut-être d'une personne pour cuisiner des gâteaux pour les desserts de tous ces jeunes. Donc si vous avez l'occasion de faire quelques gâteaux, vous pouvez les amener aussi vendredi après-midi. Et puis il y a Rebecca qui a encore distribue quelques cartons pour les hébergements. Donc allez vers elle si vous n'avez pas reçu et puis que vous vous êtes inscrit. Merci beaucoup.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a toute une série de ces ados, hein, hébergés. C'est les Terra qui se sont occupés de ça. Et voilà. Et je pense que ça, à cet âge, ils ont faim. Hein, c'est voilà. Voilà. Alors Célina. Merci pour ce matin et tu seras en vacances depuis demain jusqu'à dimanche prochain. Voilà.
J'ai encore juste vous remercier chacun parce que nous avions commandé des Christianisme de journée, ces petits journaux, plus de 1000 et tous sont partis. Quart d'heure pour l'essentiel. Merci Célina. Je te donne une mauvaise image. Enfin, quoi que le christianisme aujourd'hui, c'est un journal que je recommande. Alors, quart d'heure pour l'essentiel, j'avais commandé, et j'avais un petit peu conduit ça, avec l'accord de notre conseil, et vous avez joué le jeu, si j'ose dire comme ça, et ces 1000 journaux ont été distribués aussi à Mérin Village, Mérin Cité, aux Avanchères, aux Vergers, et puis vous-même, vous en avez pris beaucoup, puisque tous sont partis, je crois, par quelques-uns qui restent encore par ici, je ne sais même pas été regardé. Donc vraiment, un grand merci à chacun d'avoir répondu. Ça nous encourage à continuer pour une prochaine fois et c'est aussi une occasion de sortir de nos murs. Comme, alors il y a les Gédéons qui distribuent, nous on distribue des petits journaux et des fois on peut simplement se rappeler que Dieu nous appelle à être lumière dans ce monde un peu virtuel, un peu, voilà. Alors, merci aussi de prier pour la suite de tout ça, afin que ces journaux et le message qui est dans ces journaux puissent apporter, porter du fruit pour l'avancement du règne de Dieu et pour sa gloire. Merci.
Une dernière chose, nous venons d'apprendre le décès de Benjamin Félix, qui a été une figure d'engagement dans la paroisse protestante, qui est le mari d'Antoinette, qui était aussi diacre et prédicatrice dans la paroisse protestante. Et Bernard Félix, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans toute notre... Benjamin Félix était important dans toute notre vie œcuménique de Mérin. Voilà, un service d'adieu aura lieu au centre paroissial œcuménique mercredi à 14h30. Voilà. J'invite Célina.
Je vous invite à vous lever. La bénédiction que je lis en Luc 10. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par l'Esprit Saint et s'écria : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Plongez votre regard dans l'image du Christ pour voir la gloire de Dieu dans vos vies. Que le Seigneur vous accorde le discernement, la sagesse et le courage pour que votre vie de tous les jours soit empreinte de foi, d'espérance et d'amour. Amen. Bon dimanche. Et bon repas communautaire. Merci.
Deuxième. Alors, avec les 600 journaux.